Alors bonjour à chacun et à chacune. Je ne sais pas si on peut mettre les diars un petit peu. Je vais juste vous présenter qui je suis parce que je pense qu'il y a que au moins 4 personnes qui me connaissent dans l'Assemblée. Claude et puis peut-être Valérie, j'ai vu Jean-Jacques quelque part, est-ce que son épouse. Voilà, donc ça c'est Thierry et Fatih. Fatih, elle est bon, mon épouse depuis bientôt, on fêtera nos 20 ans le 6 novembre. De mariage, elle est du Burkina Faso, c'est une Ouédraogo, alors dans la langue on aurait dit ce matin, Neibéoro, ça c'est la salutation du matin. Alors voilà, et puis ça c'est les 4 enfants, Eliakim, le garçon qui va avoir 18 ans dans quelques jours, Jemima juste à côté qui aura 17 ans au mois de juillet, Ketsia qui a eu 15 ans au mois de janvier, et la dernière qui s'appelle Rejoice, qui aura 13 ans au mois de septembre. Voilà, c'est une belle famille avec tous ses défis. Voilà, ils sont tous ados, donc ils sont super. Alors, ils ont tous un nom dans la langue de ma femme, je vais vous le dire. Eliakim, il s'appelle Wenekonte, ça veut dire don de Dieu, cadeau de Dieu. Donc, ma femme est Mossi, donc hein, sa langue, c'est le Moré. Et puis, Jemima, elle s'appelle Wenneso, ça veut dire qu'elle appartient à Dieu, elle est la part de Dieu. Et Ketsia, c'est Palingwende, ça n'a pas surpris Dieu. Dieu a voulu qu'elle soit là. Et puis, Rejoice, c'est Natewende, ça veut dire elle mettra sa confiance en Dieu. Voilà. Alors, c'est des beaux prénoms, hein, mais voilà. Alors, on a baptisé deux, Ketsia et Jemima, le 24 juin avec l'église de l'Oasis, donc avec Christophe Dehay et puis avec David Richir. On avait 8 jeunes qui ont pris le baptême, dont 2 des miens. Voilà, ça, c'est Jemima. On a fait ça dans une cuve à vin, c'est sympa. Sur le terrain de Launay, c'était chouette. Il y avait à peu près entre 150 et 200 personnes. Et pas mal de gens qui n'étaient pas de l'église. Ça, c'était chouette. Mon fils devait prendre son baptême. Et au dernier moment, il a capitulé. Alors c'était un événement, c'était pas facile, mais en même temps, pour moi, c'était bon. C'était bon parce qu'il a su dire qu'il n'était pas prêt. Et ça, c'était bien. Et je l'ai vraiment encouragé à continuer à cheminer et à aller de l'avant. Voilà, j'aimerais, avant de donner le message, vous dire d'abord toutes les salutations de l'église de Launay. Ce matin, nous avons Karine Rappold de Campus pour Christ qui vient nous parler du projet Mosaïque. Cet engagement qu'elle a auprès des femmes musulmanes. Et puis moi, je suis là dans le cadre aussi des échanges de chaires de la pastorale régionale, puisque Claude et l'église de Villars font partie de notre régionale. Je vais vous raconter, juste vous donner mon témoignage en lettre ouverte. Je vais le lire, parce que ça va aller aussi dans le sens du message de ce matin. Née dans une famille ouvrière non pratiquante et n'ayant reçu aucune éducation religieuse, dans mon enfance et adolescence, j'étais un enfant puis un jeune cherchant un vrai sens de la vie, un sens à ma vie. Cursus scolaire normal, école enfantine, primaire, secondaire. Et puis c'est la rupture sociale et familiale lorsque j'apprends que mon dossier d'orientation au gymnase n'est pas accepté. Refusé pour faute de place, mais aussi en partie pour mon travail qui n'était pas très efficace. Donc des notes insuffisantes, donc je ne pouvais pas espérer plus que cela. Malaise en moi, malaise au sein même de ma famille, déchirure même, je peux dire, relations détériorées et tendues avec mon père m'ont poussé à l'âge de 17 ans de m'engager dans les troupes de marine, et j'ai même failli m'engager dans la Légion étrangère. Je suis allé 2 fois, et puis au dernier moment, Dieu m'a juste happé. Ça, c'était juste génial. Et puis c'est la fuite, c'est plus facile pour moi. Je ne suis resté qu'une année car j'ai craqué au fond de mon cœur. J'étais pas formé pour aller faire des combats en Afrique ou ailleurs. C'était pas mon truc. Alors après l'armée, ben on recommence, on retourne dans son chez-soi. On retrouve le même tempo, les mêmes refrains, les mêmes colères, les mêmes relations difficiles avec son père. Des petits boulots, j'en ai trouvé parce que j'avais aucune formation. J'ai quitté en 9e sans certificat. Je me suis permis d'aller à l'examen du matin mais pas celui de l'après-midi. Donc je ne pouvais pas espérer avoir mon certificat. Donc à 16 ans, je me suis inscrit au chômage, sans avoir d'expérience, rien. Et puis bien sûr, les petits boulots, les sorties nocturnes, hein, on commence à aller en boîte de nuit, des choses comme ça. J'étais vraiment pas bien dans mon être intérieur et dans ma peau. Rien ne me plaisait dans la vie, ici-bas. Mis à part ne rien faire, fumer, boire, et puis avoir toutes mes dérives sexuelles qui se sont petit à petit engagées dans ma vie. Alors ça a été pour moi le début d'une dégringolade vertigineuse, vers une vie sans gaz, comme je le mets, sans bulle, sans passion. C'était le désarroi, le vide absolu. J'avais peur du lendemain, je ne savais même pas ce qu'allait être le lendemain pour moi. Je vivais dans l'échec, dans l'insécurité, et une insécurité qui grandissait jour après jour et qui parfois me paralysait. Et elle m'a conduit carrément à me tourner vers la drogue. Donc pendant 6 ans, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre, comme drogue douce, plus forte et autres. Je suis allé dans différents pays même pour vivre cela. Ça a été la chute libre pour moi. Vers une vie qui n'était faite que d'insécurité et motivée essentiellement par les valeurs de ce monde. J'allais en boîte de nuit, je crois, 6 jours sur 7. Et le seul jour où j'y allais pas, c'est le jour de fermeture. On goûte à tout, puis on est persuadé que c'est bien. Moi, j'étais persuadé que c'était bon. Donc, je touchais à tout, les médicaments, on essayait de prendre tout ce qu'on pouvait ingurgiter. Et puis, quelques années ont passé. Et j'ai fait une rencontre, celle d'un homme. Et c'est de cela que je vais vous parler après dans le message. C'est du regard de cet homme. Un seul regard a changé ma vie. Ce n'est pas toutes les paroles qu'il a dites qui ont changé ma vie. C'est son regard, l'attention qu'il a portée sur moi. On en parlera par la suite. Donc cet homme, j'ai fait de la boxe avec lui. On s'est retrouvé dans la drogue, dans des fumettes parties, comme on appelait ça à l'époque, avec ambiance garantie. Il me partage sa foi, sa vie nouvelle en Jésus-Christ. Et puis ça fait son chemin dans mon cœur. Et ce qui m'a profondément touché, c'est ses yeux, ce regard brillant, étincelant, cet accueil, cet amour, cette passion et cette compassion. Je n'ai jamais vu ça dans le regard d'une autre personne. Son regard m'a confondu, m'a foudroyé sur place. Il m'a posé un problème à l'intérieur de moi-même. Et je pense que c'était le travail de Dieu qui commençait. C'est sûr même. 2 ans ont passé et je n'ai toujours pas mis ma vie en connexion directe avec le Créateur, le concepteur de ma vie. Non. Mais il a fallu que je sorte une fois à Paris, place Saint-Michel, où j'allais chercher du matériel. Et là, un groupe de jeunes était là. Merci pour les groupes de jeunes. Un groupe de jeunes d'une église évangélique libre se trouvait là pour de l'évangélisation. Et puis pour promouvoir un culte spécial la semaine d'après chez eux, dans leur église. Et vous savez quoi? Ils sont venus à 3 me voir, et quand je les ai vus arriver, je me suis dit, je sentais le truc, je me suis dit, il faut que je me faufile. Oh là là, je vois le truc arriver gros comme une maison. Et puis une de ces 3 personnes, une jeune fille, mais culottée à juste pile poil, quoi, elle arrive vers moi, elle me regarde, et elle me dit, tu connais Jésus? Je lui dis, bah oui, je connais Jésus. Je me suis dit, c'est une bonne manière de faufiler. Puis c'est vrai, je le connaissais dans ma tête. Elle me dit, tu sais, avec la tête que tu as, ben on dirait pas que tu connais Jésus. Waouh! Je vous dis pas, ça m'a scotché sur place. J'ai même pas eu de quoi lui répondre. Je suis parti, j'ai pris 100 flyers et j'ai fait mon chemin. Et puis, ce chemin a été fait aussi à l'intérieur. Toute la semaine, je me suis battu pour voir si j'allais aller ou pas aller. Il y avait un qui me tirait pour pas y aller. Il m'a dit, t'as pas besoin de ça, laisse tomber. C'est des ringards, c'est des gens qui sont à côté du vélo, ils ont besoin d'une béquille. Jésus, bonne béquille. Et puis, il y en avait un autre qui me dit, c'est le rendez-vous de Dieu pour toi. Waouh, quel tiraillement intérieur, quelle guerre. 2 royaumes s'opposaient. J'ai compris ce que c'était le spirituel à ce moment-là. 2 combats à l'intérieur, 2 royaumes en confrontation. La lumière et les ténèbres. Et moi, j'étais dans les ténèbres. Quand cet homme me parlait et me regardait, j'arrivais même pas à le fixer, tellement j'étais sale, sale à l'intérieur. Et puis voilà que je me suis battu et je suis allé ce jour-là dans cette église. Et c'était extraordinaire. Il y avait une louange extraordinaire. C'était une église afro-antillaise. Il y avait quelques blancs quand même parsemés par-ci, par-là. Et puis très dynamique, vraiment c'était, et c'est surtout l'accueil, l'exubérance, la joie, le bonheur qu'on pouvait toucher même, on pouvait presque le saisir par la main, qui m'a dit, mais attends, ça existe ça? Ça existe le bonheur? C'est pas vrai, extraordinaire. Et puis la louange terminée, il y a eu un message, et puis il y a eu un premier appel. Bon, j'ai laissé l'appel passer. Puis au moment du deuxième appel, je me suis dit au-dedans de moi, Franchement, les paumés, c'est eux. Hein. Enfin, moi, je suis là, mais... En plus, je m'étais mis au fond de l'église, près de la sortie. Comme ça, je me dis, s'il y a un vent contraire, je peux tracer vite fait, prendre la porte et puis m'échapper. Puis je me suis dit, au fond de l'église, Dieu, il ne va pas me voir. Les gens, ils me voient, mais Dieu, il ne peut pas me voir. Je suis bien caché derrière le mur et tout ça. Pas de souci. Ouais, pas de souci. Le seul qui l'a vu ce jour-là, c'est bien moi. Deuxième appel, je me disais donc au-dedans de moi cette parole qui disait que bon, les bons à rien, c'est bien eux, quoi, les pauvres perdus là qui sont là. Et au moment où je disais ça, il y a eu cet appel de cet homme, de ce pasteur qui a dit, je sens qu'au fond de la salle, il y a quelques personnes qui pensent que les perdus, ils sont pas là, c'est pas lui, c'est pas toi qui es perdu. Tu penses que c'est les autres, mais en fait, Dieu te donne rendez-vous aujourd'hui. Et ça fait comme un... comme une étincelle, parce qu'à l'intérieur de moi-même, il ne pouvait pas deviner la parole que je disais. C'est pas possible. Pas ma bouche qui a prononcé les paroles. C'est mon être intérieur. C'était dans mon secret du cœur. Comment cet homme pouvait avoir entendu cette parole? Et puis il y a eu cette rencontre entre ces deux paroles. Et ça fait comme un clash à l'intérieur. Et je dis, mon père n'était pas électricien, mais j'ai pris un coup de jus de la tête aux pieds. Et je ne me rappelle pas que mon âme ait dit à mon corps, va devant. Mais je m'y suis retrouvé en tout cas. Et j'ai un blanc d'absence. Alors j'ai pas volé, hein. Pas de souci, j'avais bien les pieds par terre, mais je ne me rappelle plus de ce blanc-là. Ils ont prié pour moi, j'ai donné ma vie à Jésus, et je suis sorti dehors et j'ai dit, Seigneur, pourvu que je ne sois pas tombé dans une secte ou un truc comme ça. Je ne connaissais rien de l'église. J'avais les témoins de Jéhovah qui venaient deux fois par semaine chez moi, avec tour de garde et réveillez-vous. Alors, je ne vous dis pas la confusion dans mon esprit. La tour de garde, réveillez-vous la tour de garde. Voilà. Et c'était confus, quoi. Alors, j'ai demandé une toison, j'ai demandé un signe visible à Dieu. Je dis, Seigneur, si c'est le bon chemin, si c'est bien toi, Jésus, le ressuscité à qui j'ai donné ma vie, juste un petit signe. Ce jour-là, j'ai été délivré de la cigarette. Je suis sorti comme un bon nouveau chrétien, j'ai pris ma petite Marlboro, j'ai voulu l'allumer, et incroyable, l'addiction, le test, l'envie intérieure avait disparu. Ce jour-là, j'ai pu donner à la poubelle non seulement le briquet, mais aussi le paquet, enfin j'ai tout donné à la poubelle. Et ça a été terminé. Une guérison directe, complète, de l'addiction de la cigarette. À l'âge de 10 ans, j'avais commencé ma première cigarette. À 15 ans, j'étais un paquet et à 18, j'en étais déjà à deux. Donc, vous imaginez, hein, j'étais déjà bien embringué dans tout ce qui était tabac et compagnie. J'ai vécu une délivrance. Et là, j'ai su que j'avais donné à ma vie au Dieu vivant, au ressuscité. Et ça, c'était juste extraordinaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un regard qui change tout. Ça a bouleversé ma vie. Et je vous invite à lire dans Luc 5, les versets 27 à 31. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Le titre de mon message, au commencement, un regard. Ce passage nous introduit un personnage bien connu, nommé Lévi, Matthieu, collecteur d'impôts, bon job. À l'époque, l'occupant romain avait de grands besoins pour financer l'étendue de son royaume, de son empire. Donc de considérables sommes d'argent étaient perçues prélevées dans tous les pays occupés. Alors les juifs de l'époque s'opposaient de manière vigoureuse au paiement de ces taxes. Ils n'étaient pas d'accord du tout de soutenir un financement d'un empire qui était étranger et aussi idolâtre. Les collecteurs d'impôts n'avaient pas une très bonne réputation à l'époque. Ils figuraient parmi les personnes les moins considérées et les moins appréciées. Traite, collabos, escrocs au service de l'occupant. Tout le monde savait qu'ils s'enrichissaient quelque part sur le dos de leurs compatriotes en prélevant un petit peu plus que ce qui leur était demandé. Voilà pourquoi dans le texte, les pharisiens murmurent et n'accueillent pas la démarche de Jésus qui va accepter l'invitation de Lévi à partager ce festin avec les marginaux, avec ses publicains. Le regard que Jésus va poser sur Lévi va changer sa vie. Le regard que Bruno a posé sur ma vie a tout changé. Une attention particulière. Lévi est un homme marginalisé à cause de sa profession, détesté par ses compatriotes, critiqué même par les pharisiens, considéré un petit peu comme un voleur, un abuseur. Que devait ressentir Lévi à l'intérieur de lui-même? Il avait certainement un besoin pressant d'amour, d'affection, de reconnaissance. Il aspirait certainement à vivre autre chose que la routine qui animait quotidiennement sa vie à son bureau. N'avait-il pas au-dedans de lui peut-être un désir brûlant, ardent, de vivre un changement, une soif profonde à vivre une vie plus empreinte d'affection, de considération, de reconnaissance, de relation? Les critiques quotidiennes, les regards moqueurs peut-être et injurieux, la colère peut-être des uns et des autres, la mise à l'écart devait le contraindre à un certain appauvrissement intérieur. Son réseau social était exclusivement quadrillé. Seuls les exclus, les marginaux, les publicains faisaient partie de son champ relationnel. C'était un peu comme ça pour moi aussi. Pas des collecteurs d'impôts, mais des gens de mauvaise vie. Ce percepteur d'impôts était certainement en recherche d'une vie différente, en quête d'un changement sur le plan social, mais aussi sur le plan relationnel, affectif, identitaire. Voilà que Jésus sort et il voit Lévi. C'est Jésus qui prend l'initiative dans ce texte, qui remarque Lévi, qui l'appelle. Tout commence par un regard. Il vit, il remarqua, suivi d'un appel, « Suis-moi ». Quand Bruno a porté le regard sur moi, je me suis dit, « Waouh, il y a quelque chose qui va changer dans ma vie. » Oh, ça n'a pas fait long feu. La guerre a commencé à l'intérieur de moi-même. Tous mes besoins relationnels, affectifs, toutes mes blessures, qui ont commencé gentiment à faire surface, tous mes manquements, toutes mes faiblesses, toute mon impureté. Mais ce jour-là, au travers de Bruno, Jésus m'a vu. Il m'a remarqué. Il a remarqué ma détresse. Il a remarqué mes blessures, mes frustrations, mon manque d'affection, mon manque d'amour. Il a vu tout ça en moi. Et il a commencé à me guérir le jour où Bruno m'a regardé. Parce que c'est Jésus qui m'a regardé. Jésus porte une attention particulière qui va orienter la vie de cet homme sur un nouveau rivage. Lévi doit être prêt à tout quitter, à se lever et à se mettre en route à la suite de Jésus, pour que cette invitation, quelque part, cet appel, soit signifiant et concluant. Et c'est ce qu'il va faire. Jésus a-t-il perçu le besoin de cet homme? Jésus perçoit-il ton besoin ce matin? Notre besoin? Et quel est notre besoin ce matin? Qu'est-ce qui a besoin d'être visité ou revisité dans notre être intérieur? Qu'est-ce qui a besoin de changer en nous? Quel regard portons-nous sur la société ambiante dans laquelle nous vivons? Quel regard portons-nous de notre Église, de nos frères et sœurs, de notre pasteur, de nos anciens, de nos diacres? Quel regard portons-nous sur nos voisins, sur nos collègues de travail? Quelle attention portons-nous les uns envers les autres? Ce matin, c'est Edith qui m'a accueilli. Je ne savais pas par où on montait pour aller à la chapelle. Elle m'a dit « Oh, je vais vous guider ». C'est bon, ça fait plaisir. Et puis ici, j'ai été pris en charge par Jean, par Pierre, Corinne, avec qui on a échangé quelques mails. C'est bon, on se sent accueilli, on se sent respecté, on se sent regardé. Il y a une attention qui est posée sur nous. Ça fait du bien, je vous assure. C'est bon. Après l'attention, il y a l'invitation. Jésus voit au bureau des impôts un péager nommé Lévi, et après l'avoir regardé, il l'appelle à le suivre. Et voilà que cet homme se lève de suite à la demande de Jésus, abandonne une carrière lucrative, probablement malhonnête, quitte sa profession au revenu alléchant, certainement, pour suivre Jésus. Sur une simple attention, un appel particulier, Lévi va tout laisser et répondre favorablement. Lorsque je suis sorti de cette église, j'ai dit oui, ça je veux. Ça c'est fait, c'est un facteur de changement que je veux. Je veux que ma vie soit métamorphosée, pas changée. Changer c'est trop petit pour moi. Il fallait que je sois métamorphosé. Il fallait que je sois retourné complètement. Que s'est-il passé dans l'être intérieur de cet homme? Le regard de Jésus a-t-il pu percer le cœur de Lévi, entrevoir son besoin et y répondre? L'attention particulière posée par Jésus a-t-elle traversé et laissé des traces dans la vie de ce publicain? Le regard de Bruno a laissé des traces dans mon cœur. Lévi est saisi, touché, visité en profondeur, rien que par un regard, une attention particulière et une parole. Suis-moi. Le choc va être très fort et la réponse immédiate. Un regard que pose Jésus sur ce collecteur va produire un changement extraordinaire dans sa vie. Il délaisse sa fortune matérielle pour acquérir une fortune spirituelle. Est-ce que nous tenons toujours la possibilité dans notre quotidien à ce que Jésus nous regarde, nous appelle, nous interpelle, pose une attention particulière sur nos vies? Est-ce que nous lui laissons cette possibilité? Un changement. Lévi est tout heureux de vivre cela. Au-dedans de lui, il y a comme une révolution, une joie extérieure qui surgit, un bien-être. Et qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va organiser une fête, un festin, un banquet. Signe, je dirais, visible et particulier de ce changement. À l'époque, dans la mentalité orientale, et c'est très africain aussi, partager un repas avec une autre personne, c'est un signe d'amitié. Ça signifiait s'engager en relation, en amitié. Il organise un repas festif pour permettre aussi à ses collègues de travail et à d'autres personnes de mauvaise réputation, de mauvaise vie, de rencontrer Jésus. Je ne suis pas le pasteur traditionnel, je suis bien désolé, mais je suis un pasteur atypique, plutôt un évangéliste dans l'âme et dans le cœur. J'aime la jeunesse. Je m'y suis voué pour un moment. J'étais responsable des fabricants de joie au Burkina Faso. Je suis très investi dans les Kids Games. Et j'avais démarré à l'époque au Burkina Comme NC. C'était quartier libre en fait, mais version différente. La mienne, avec mon nom. Vous savez, quand Jésus dit, j'aime ce verset de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. J'aime ce cœur pour le monde. J'aime les gens. J'aime les gens. C'est pas donné à tout le monde, je vous assure. Je prie tous les jours pour que Dieu me donne assez d'amour, assez de compassion et de miséricorde pour aimer mon prochain, quel qu'il soit. Mes beaux-parents sont musulmans. Ma femme s'est convertie de l'islam au christianisme avant que je la connaisse. Je les aime profondément. Et nous témoignons de notre amour de Jésus à leur côté, en les soutenant, parce qu'ils vivent dans une pauvreté extrême. Il organise un festin pour accueillir Jésus, mais aussi ses collaborateurs, ses collègues, pour qu'ils rencontrent ce Jésus. Avons-nous toujours autant d'empressement à accueillir Jésus, chaque jour, chaque matin? Lorsque nous invitons Jésus dans notre espace de vie, un changement se produit-il? Quelque chose se passe-t-il dans cette relation, dans cette communion, dans cette invitation? Vous savez, pour Zachée, c'est son porte-monnaie qui en a subi les conséquences. Luc 19, 1 à 10. Quels sont les effets secondaires dans nos vies qui jaillissent de notre relation avec Dieu? Qu'est-ce qu'il se passe lorsque nous connectons avec Jésus? Lorsque nous avons cette intimité, cette proximité avec Jésus? Que se passe-t-il? Quel changement s'opère-t-il? Si petit qu'il soit. J'aime à dire, tout à l'heure, la sœur a prié, c'était juste ce qu'elle a dit. Il est un Dieu des miracles, mais il est aussi le Dieu des détails. Et c'est juste là où il est extraordinaire. Dans les plus petites choses de ta vie, il agit. Et ça, c'est juste merveilleux. Il s'incarne dans la petitesse de notre humanité, dans les petits détails de nos vies. Si banal soit-il, pour moi, ce n'est pas banal. C'est extraordinaire. Et c'est là que j'aime voir Jésus. Pas simplement dans les miracles, mais dans ces petits détails. Insignifiant parfois, Dieu est là. En conclusion, frères et sœurs, ce récit de Lévi est très proche de celui de l'invitation chez Zachée. C'est le regard que Jésus a posé sur Lévi qui va fondamentalement changer, transformer, bouleverser sa vie. Quelle place accordons-nous à ce regard que le Christ pose sur chacun de nous? Quelle place nous lui donnons? Un regard qui ne condamne pas. Un regard qui ne juge pas selon l'apparence. Et le Christ, ici, ne se contente pas de regarder Lévi. Il accepte de venir dans sa maison, partager ce repas. Et c'est là que les choses vont changer aussi pour Lévi. Jésus, ce matin, ne veut pas rester ou se contenter de nous regarder et de rester sous le seuil de notre maison, mais il désire partager avec nous, nous regarder, nous poser une attention particulière. Alors qu'allons-nous lui répondre? Est-ce que comme Lévi, nous allons l'inviter à demeurer chez nous? Cette rencontre, cette invitation peut être un sujet de changement, de bouleversement, de tumulte intérieur. Sommes-nous prêts et ouverts à le vivre ce matin? Amen.